La Russie défend l'idée d'avoir l'Iran en tant que membre permanent au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. En RDC, les pro-Kabila lancent une offensive contre les ingérences étrangères. L'armée vénézuélienne a abattu un avion de trafiquants de drogue enregistré aux États-Unis qui était entré illégalement dans l'espace aérien du pays. C'était les titres. En voici le journal. La Russie défend l'idée d'avoir l'Iran en tant que membre permanent au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Moscou, M. Kazem Jalali, s'est entretenu mardi 15 septembre avec le représentant spécial du président russe pour l'Organisation de coopération de Shanghai, Bakhtiar Akimov, afin de discuter des activités de l'Iran en tant que membre observateur de cette organisation. Lors de cette rencontre, Bakhtiar Akimov a souligné que Moscou soutenait l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, en tant que membre permanent. Les deux diplomates se sont également penchés sur la perspective des coopérations entre l'Iran et la Russie dans le cadre de l'OCS. Le 12 septembre a eu lieu la réunion des ministres des Affaires étrangères de cette organisation qui visait à préparer le prochain sommet de l'organisation prévu en novembre. À cette occasion, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fustigé l'unilatéralisme des États-Unis. En tant que superpuissance, les États-Unis ne renoncent malheureusement pas à leur politique d'America First et ils se retirent unilatéralement des organisations et des traités internationaux, ce qui a nui à d'autres pays du monde, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise. Il a souligné que l'OCS devrait protéger catégoriquement les positions de principe de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les lois internationales afin d'empêcher l'hégémonie américaine de les transformer en lois de la jungle. L'Organisation de coopération de Shanghai a été fondée en 2001 par la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Chine, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. La République islamique d'Iran est un membre observateur de cette organisation. Au Yémen, les combattants d'Ansar Allah et les effectifs de l'armée ont remporté d'importantes victoires dans les provinces Al-Baïda, Al-Jaouf et Marib, en libérant plus de 4000 km² du territoire. Ils ont porté un coup fatal à la coalition saoudienne et ses mercenaires. Après avoir essuyé de cuisants échecs, la coalition a recouru à tout moyen et lancé une opération dans la province méridionale d'Al-Jaouf pour alléger la pression psychologique sur ses forces et enrayer l'avancée des combattants yéménites. La récente opération infructueuse des mercenaires dans le sud de la province d'Al-Jaouf a eu lieu dans une situation où la coalition saoudienne est bien consciente d'avoir perdu sa position dans le sud et le nord-ouest de la province de Marib, a indiqué une source militaire déployé sur le terrain. Le compte à rebours pour la libération de Marib a commencé, a fait savoir la source. En Syrie, les corps enseignants, le personnel administratif et les élèves des écoles ont observé un sit-in devant la direction de l'éducation à Asaké pour protester contre les pratiques de la milice FTS, force démocratique syrienne soutenue par l'occupant américain qui saisit les écoles et prive des milliers d'élèves et d'étudiants de l'enseignement. Toujours depuis Asaka, des sources locales ont fait part d'une explosion près d'une station-service dans la zone de Romaylan, dans la banlieue nord-est de la ville. Un engin explosif planté par des personnes inconnues a explosé mercredi 16 septembre dans un camion-citerne en face d'une station essence à Liara sur l'autoroute générale reliant Talalou à Al-Yaroubiya, dans la zone de Romaylan, faisant un mort et des blessés. Sachez également que des sources civiles dans la banlieue de Yaroubiya ont affirmé que les forces d'occupation américaines ont fait entrer dans les territoires syriens via le poste illégal Al-Walid un convoi de 58 camions et camions-citernes chargés de plaques de ciment et accompagnés d'un certain nombre de véhicules militaires américains depuis l'Irak dans la ville de Ramishli. Toujours à propos de la Syrie, une source russe qui a requis l'anonymat a révélé à l'agence de presse Sputnik que Moscou avait proposé à Ankara de réduire le nombre de points d'observation turcs dans la province syrienne d'Idlib, mais que la Turquie a refusé la proposition de la Russie. La proposition a été faite mardi lors de la réunion tenue au siège du ministère turc des Affaires étrangères. Aucun accord n'a été conclu à ce sujet, indique la source. La Turquie n'a pas encore annoncé de manière transparente le nombre de soldats et d'équipements militaires qu'elle a déployés en Syrie. Mais d'après une étude menée par un centre de recherche militaire aux États-Unis, du 1er février au 31 mars 2020, la Turquie avait déployé près de 20 000 soldats en Syrie. Depuis le début du cessez-le-feu à Idlib, 5 450 véhicules militaires turcs sont entrés à Idlib. Depuis une semaine, les avions de chasse et l'artillerie de l'armée russe ont multiplié leurs frappes contre les positions des terroristes du front al-Nusra dans le gouvernorat d'Idlib. En RDC, les pro-Kabila lancent une offensive contre les ingérences étrangères. La rentrée parlementaire en RDC, à laquelle était présent l'ancien président Joseph Kabila, aura été marquée par une offensive d'Alexis Thambuve Mbava, président du Sénat, et de Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, contre des ingérences de diplomates en poste à Kinshasa. Les présidents de deux chambres du Parlement ont dénoncé mardi l'ingérence et l'activisme de diplomates accrédités en République démocratique du Congo à l'occasion d'une rentrée parlementaire marquée par le retour de leur chef de file, l'ancien président Joseph Kabila. Le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'État, déclarait le président du Sénat dans son discours de rentrée parlementaire en présence de Joseph Kabila. Nous demandons au gouvernement de rappeler aux diplomates en République démocratique du Congo, quels qu'ils soient, les exigences de leurs charges et leurs devoirs de réserve qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures, a déclaré ensuite la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, devant les députés. Les présidents des deux chambres sont du Front commun pour le Congo, FCC, de l'ex-président Joseph Kabila, majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le FCC gouverne en coalition avec le président Tshisekedi. Les tensions entre les deux partenaires n'ont pas cessé pendant les vacances parlementaires de juillet-août. Les investisseurs coréens explorent le secteur pétrolier gabonais. L'ambassadeur de la République de Corée au Gabon a été reçu mercredi en audience par le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines. Avec au menu des échanges, la possibilité pour les hommes d'affaires coréens de venir investir au Gabon, un pays à fort potentiel pétrolier. Le Gabon et la Corée partagent actuellement un partenariat privilégié dans le secteur du pétrole et du gaz. À cet effet, nous avons discuté des opportunités pour des investisseurs coréens de venir prendre part aux différentes activités qui sont en cours dans l'industrie du pétrole et du gaz au Gabon, a déclaré l'ambassadeur coréen au terme de l'audience. La Corée et le Gabon ont une coopération bilatérale séculaire datant depuis 1962. La Corée est présente au Gabon, entre autres dans le domaine de l'énergie, des mines, du commerce automobile et des arts martiaux. Et pour fermer le journal, l'armée vénézuélienne a abattu un avion de trafiquants de drogue enregistré aux États-Unis qui était entré illégalement dans l'espace aérien du pays, selon le ministre de l'Intérieur du Venezuela. Immatriculé aux États-Unis, un avion de trafiquants de drogue a été abattu par des militaires vénézuéliens. L'information a été directement confirmée par le ministre vénézuélien de l'Intérieur. Sur Twitter, il a ainsi expliqué qu'un avion immatriculé aux États-Unis est entré illégalement dans l'espace aérien vénézuélien par l'État de Zulia. En guerre face aux narcotrafiquants, le Venezuela est en état d'alerte permanent sur ce sujet. Nous maintenons un état d'alerte permanent. Nous surveillons notre espace aérien pour éviter qu'il ne soit utilisé pour le trafic de drogue illicite en provenance de Colombie, le plus grand producteur de cocaïne au monde, précise le ministre. La surveillance est accrue aux frontières du pays afin de s'assurer qu'aucun trafic illicite ne soit organisé, notamment au départ de la Colombie, le premier pays producteur de cocaïne au monde. Ce n'est pas la première fois qu'un tel appareil est détruit. En effet, au mois de juillet dernier, un avion américain a déjà été ciblé par les armées. Cette décision date de 2013. À l'époque, le président vénézuélien Nicolas Maduro a ordonné que tous les avions de trafiquants passant par le Venezuela soient détruits. L'initiative du projet de loi appartient à son prédécesseur Hugo Chavez. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Jask 2 a embarqué sur Radir, une plongée de toutes les surprises pour les États-Unis et compagnie. C'est le titre du commentaire politique. Cette profondeur stratégique terrestre et aérienne que le régime sioniste a totalement perdue depuis que l'axe de la résistance l'a encerclé du nord comme du sud avec un anneau balistique et de précision prêt à s'activer, il veut maintenant se la faire restituer en mer et ce sur le dos de Bahreïn, des Émirats arabes unis et sans doute d'Oman. Reste la faisabilité de ce projet. Avec la tenue des exercices militaires Zulfarar 99 en Iran, quelques-uns des obstacles dressés sur la voie de cette ambition se sont fait montrer. JASC 2 en est un. Projet stratégique parfaitement iranien et rare en termes de portée et de complexité qui fait classer l'Iran parmi les 10 pays du monde qui le maîtrisent. Il s'agit de doter un sous-marin furtif d'un missile de croisière de type Nasr de façon à ce qu'il soit tiré en immersion sans se faire traquer ni intercepter. Dans le cadre d'une confrontation maritime, c'est un facteur qui fera la différence. Mais comment ça marche ? Le sous-marin de classe Radil est devenu le premier sous-marin léger de production en masse dans le monde, capable de tirer des missiles de croisière anti-navire, SLBM. La région du Golfe Persique, en tant que petit bassin d'eau peu profonde, constitue un défi majeur pour la plupart des sous-marins, même les sous-marins à propulsion diesel électrique ayant des poids ordinaires. En 2018, lors de la livraison de deux sous-marins de classe Radil aux forces armées iraniennes, de nouvelles informations ont été divulguées concernant l'installation de nouveaux systèmes de propulsion sur ces sous-marins. Les moteurs BLDC sont une nouvelle génération de propulseurs développés pour ces sous-marins. Ces moteurs sont plus petits que les moteurs électroniques conventionnels, un grand avantage pour un sous-marin, en particulier pour le sous-marin Radil. Dans le même temps, ce moteur, avec sa plus petite taille, produit plus d'efficacité et de puissance. En raison de l'absence de balai, il est plus silencieux que les modèles habituels de moteurs électroniques. La République islamique d'Iran est le premier pays à avoir déployé de façon opérationnelle ce genre de moteur sur ses sous-marins à propulsion diesel électrique. Le projet JASC 2 peut être considéré comme l'un des projets de missiles les plus importants et les plus stratégiques dans le domaine maritime, car il a donné la possibilité de tirer des missiles de croisière anti-navire en direction des vedettes en immersion. Une capacité spéciale et unique qui est à la portée de moins de 10 pays dans le monde. Dans le projet JASC 2, le missile est placé à l'intérieur d'un couvercle en forme de torpille et tiré des réservoirs standards de 533 mm. Puis, à l'approche de la surface de l'eau, la coque extérieure est détachée et le missile est tiré sur la cible. Le projet JASC 2 a été développé sur la base du missile de croisière anti-navire Nasr 1. Ce petit missile léger a été choisi pour être utilisé dans de petits sous-marins comme ceux de Radil. Bref, Israël ne pourrait se donner une profondeur maritime.